vais vous lire ce passage, ce verset, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, 8b. Il est dit, le Fils de Dieu, c'est Jésus, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Alors, les œuvres du diable, c'est tout ce qui est à l'opposé de ce que Dieu ferait, en sachant que Dieu s'est révélé comme étant le Dieu de la vie. Donc là où on voit la peur, là où on voit la mort, là où on voit la maladie, là où on voit la confusion, là où on voit les disputes, là où on voit toutes ces choses qui appartiennent aux ténèbres, eh bien la Bible nous dit ces choses ne viennent pas de Dieu. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Le Fils de Dieu, lui, Jésus, est apparu. Est-ce que Jésus est venu? Il est déjà venu? Oui. Il y a 2000 ans, il est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Alors, on pourrait se dire, dis donc, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de ténèbres encore sur cette terre. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir allumer votre télé à 13h ou d'ailleurs aujourd'hui à n'importe quelle heure. Et dans le journal télévisé, vous allez entendre parler pratiquement que des œuvres du diable. Il y a eu un problème ici, il y a eu une explosion là, il y a eu une inondation ici, il y a des gens qui sont morts dans telle catastrophe, etc. La terre entière n'est pas encore sous le règne de Christ, mais un jour ça viendra. En revanche, pour celui qui accepte Jésus, eh bien oui, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La première étant la puissance du péché. Le Seigneur s'est occupé du péché, de la puissance du péché. Mais la puissance de la venue de Jésus se voit réellement dans la vie de celui qui reçoit. Celui qui veut laisser le diable faire ce qu'il veut dans sa vie, Jésus ne peut rien faire parce que les êtres humains sont libres. Nous sommes libres ou bien de laisser Dieu agir dans notre vie ou alors de nous débrouiller tout seul et de nous retrouver face à un ennemi qui est plus puissant que nous. Mais Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jean 10:10, Jésus dit, il se présente comme le bon berger et il dit « Je suis venu pour donner la vie » et la vie en abondance. Jésus est venu pour donner la vie. Donc, il y a toujours un contraste entre les œuvres de Jésus et les œuvres de son ennemi, c'est-à-dire de mon ennemi. Ce qui veut dire que pour celui qui a reçu Jésus dans sa vie, celui qui veut bien laisser Jésus agir dans sa vie, on va voir la vie se manifester dans tous les aspects de notre vie. Si nous laissons Jésus faire ce qu'il veut dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que va-t-il se passer? Sa vie va impacter toute notre vie. Et la Bible nous dit, c'est pas du goutte à goutte, c'est en abondance. En abondance. Qui ici a envie de voir la vie de Jésus en abondance dans sa propre vie? Ah oui, parce que c'est une vraie aventure de la foi. Et c'est une belle aventure. Ce qui veut dire que pour chaque chrétien qui rencontre des problèmes dans la vie, il a en lui cet espoir. Parce que j'ai accepté Jésus, alors il y a toujours une issue de secours pour moi. Un chrétien n'arrivera jamais au niveau où il est dos au mur en disant « il n'y a plus d'espoir ». Peut-être que lui, selon ses évaluations, selon ce qu'il connaît de ses propres capacités, il peut dire « je suis dos au mur, je ne m'en sortirai pas ». Mais si c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, il dirait « je ne sais pas comment m'en sortir, mais je sais que parce que ma vie est en Dieu, il y a une solution, il y a une délivrance et je refuse de rester là où je suis ». Et notamment dans le contexte de la maladie, puisque nous avons traité ce sujet depuis plusieurs semaines, eh bien nous savons qu'aucun chrétien ne peut se désespérer parce qu'il n'envisagerait, parce qu'il ne connaîtrait pas une solution pour une maladie incurable. En Jésus-Christ, Jésus a dit « Je suis venu afin de vous donner la vie ». Pas quand tout va bien chez vous. Jésus n'a pas dit « Je suis venu afin de vous donner la vie quand vous êtes en bonne santé » ou quand vous avez un rhume, ou quand vous avez juste un petit problème. Il a juste dit « Je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance ». Et devant cette foule en délire, nous allons continuer. Alors, comment lier cela avec le message de la Pentecôte? Parce que c'est quand même ce que je voulais faire. C'est que Jésus, donc, nous dit clairement dans les Écritures que quand quelqu'un a accepté le pardon que Jésus nous a acquis à la croix, ce pardon de tous nos péchés, qui nous met en règle vis-à-vis du Dieu éternel, à partir du moment où nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix en disant « c'était pour moi, c'est moi qui aurais dû payer le prix pour mes péchés », Jésus y est allé, à partir du moment où nous reconnaissons Jésus comme sauveur, l'Esprit de Dieu vient en nous, recrée notre cœur et la Bible, notre être intérieur, et la Bible nous assure qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais c'est énorme. Ça ne fait plus de toi un simple être humain. L'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu es quelqu'un que tu n'étais pas avant. Même si tu aimes les mêmes couleurs, même si tu as gardé la même coupe de cheveux, à l'intérieur, tu n'es plus la même personne. Et il nous est dit que cet Esprit de Dieu, là, qui viendrait en nous, fait certaines choses, collabore avec nous d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que cela a à voir? Donc, d'un côté, nous acceptons le Seigneur dans notre vie, l'Esprit de Dieu vient en nous, il transforme notre cœur, l'Esprit de Dieu demeure en nous, mais ce qui se passe, ce qui est magnifique, c'est qu'à la Pentecôte, la puissance de l'Esprit de Dieu est déversée en nous, au point que cette puissance-là, nous pouvons la transférer aux autres. C'est énorme, énorme, énorme. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, eh bien, si nous, nous avons l'Esprit de Dieu, et si nous avons laissé l'Esprit de Dieu se déverser en nous, dans toute sa puissance, alors cela veut dire que nous avons une puissance en nous qui nous permet de faire certaines choses. Et c'est de cela dont nous allons parler. Mais brièvement, que fait l'Esprit de Dieu en nous? Dans Jean chapitre 14, verset 17, il est dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit « moi je ne crois pas en Dieu », qui ne veut pas recevoir ce qui est de Dieu, eh bien il ne connaîtra pas le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on parlait d'humilité, voilà. Il est dit, mais vous quoi? Vous qui avez accepté de croire dans ce que Jésus a fait à la croix, mais vous le connaissez, l'Esprit de vérité, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, ça c'était avant que Jésus n'aille à la croix, et depuis, le Saint-Esprit est dans les chrétiens. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il est dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous » Alors, Jésus est ressuscité, ça veut dire Jésus est vivant. Il faut que vous sachiez que Jésus est vivant. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus n'est plus, le corps de Jésus n'est pas dans une tombe. Jésus a retrouvé un corps glorifié, parce que Jésus lui-même est vivant. Et il nous est dit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps. Comment ? Par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu, vous savez, auparavant, l'Esprit de Dieu était dans le temple, d'abord dans un tabernacle pendant des années. Le peuple hébreu a marché dans le désert avec, dans l'Arche de l'Alliance, l'Esprit de Dieu y était. Et puis ensuite, il y a un temple qui a été construit à Jérusalem et l'Esprit de Dieu était dans ce temple. Mais Dieu n'a jamais voulu se limiter à des temples faits de mains d'hommes. Il a toujours voulu habiter dans les êtres humains pour être un avec nous. C'est vous dire à quel point Dieu nous aime. Et depuis que Jésus est allé à la croix, eh bien l'Esprit de Dieu habite dans le cœur de tous ceux qui l'ont accepté. Alors, que fait l'Esprit de Dieu dans Actes chapitre 16, chapitre 16, versets 13 à 15, il est dit « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira. » Ah ah, tu as besoin d'un guide ? Pas la peine d'aller voir les cartomanciennes qui ne savent pas grand-chose. Et la Bible, d'ailleurs, nous interdit d'aller consulter les astrologues, les cartomanciennes, etc. Il est dit, l'Esprit de Dieu vous conduira. Tu sais, tout le monde a besoin d'un guide. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il ne nous conduise pas dans le fossé, qu'il nous conduise sur le bon chemin. Et il est dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Quand nous faisons confiance au Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de Dieu peut et veut te dire ce que tu dois connaître de ce qui doit arriver. Ça n'est pas mal de dire, oh, tiens, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Mais pose la question à la bonne personne, pose la question au Saint-Esprit. Il est dit, il révélera ma gloire, donc Jésus parle, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans Jean 14, versets 16, 17, il est dit, « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit toujours avec vous pour toujours. » Tu as besoin d'un défenseur, eh bien l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de la vérité, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ce qui appartient à l'âme, il va au-delà de ce qui appartient à la tradition, il va au-delà de ce qui appartient aux circonstances. L'Esprit de Dieu, quand il nous défend à la lumière de la vérité. Une autre version dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est un défenseur, le Saint-Esprit est un consolateur. Et je vais vous dire, il est notre seul consolateur. Parce que les circonstances de la vie sont telles que bien souvent, même les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment ne pourront pas vous consoler. Parce qu'ils ne pourront pas aller dans les profondeurs de votre cœur. En revanche, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, lui est capable d'aller, parce qu'il est dans votre cœur, dans tous les recoins de notre cœur, dans tous les recoins de notre âme, et il est capable, là, dans ces recoins-là, de nous dire ce qu'il a entendu Jésus dire. Vous croyez qu'on peut vraiment compter sur Dieu ? Vous savez, vos meilleurs amis ne peuvent pas toujours être à vos côtés, c'est irréaliste, irréaliste. « Oui, mais personne m'a téléphoné, oui, mais personne n'a pris de mes nouvelles, oui, mais... » Tu sais, tout le monde est tellement occupé aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient prendre de tes nouvelles, mais qui ne peuvent pas, parce qu'au moment où ils allaient prendre le téléphone, il y a autre chose qui s'est passé. En revanche, à n'importe quel moment, tu peux compter sur le Consolateur qui est avec toi non seulement pendant la journée, qui est avec toi... pendant la nuit, en général, c'est là qu'il y a le plus besoin de consolation parce que c'est là où ça gamberge le plus. C'est étonnant cette nuit, hein. Mais qui est non seulement avec toi à Nice ou où que tu habites, mais qui est avec toi, tu peux aller jusqu'aux extrémités du monde. Le Consolateur sera toujours là avec toi si tu as choisi qu'il habite en toi. En d'autres mots, laisse-le faire. Personne n'est obligé de rester avec ses blessures. Pourquoi ? Parce que nous avons un défenseur, parce que nous avons un consolateur. Il dit qu'il soit éternellement avec vous. C'est-à-dire que quand il est dit que quelqu'un est éternellement avec nous, eh bien, cela veut dire que quels que soient les choix que l'on fait, il reste à bord. Ce n'est pas le capitaine comme le Concordia. Vous vous rappelez de ce bateau, malheureusement, plus de 400 blessés et 23 morts, quelque chose comme cela. Et le capitaine, bien courageux, après la série d'erreurs qu'il a faites, eh bien, il sait que le bateau coule, qu'est-ce qu'il fait ? Ben lui, il saute. Il ne reste pas dans le bateau et il laisse les gens se débrouiller. Le Saint-Esprit n'est pas ce genre de capitaine. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit reste à bord. Ce qui veut dire que si tu as accepté Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et même si tu fais des choix idiots, il reste à bord. Je vais répéter parce que peut-être que certains disent « Ah, mais non, après tout, si jamais on fait des choix, ben tant pis pour nous, on subit les conséquences. » Mais oui, ben bien sûr, il y a des choix que l'on fait, évidemment qu'il y a des conséquences. Tu couches avec une jeune fille quand vous n'êtes pas mariés, il peut y avoir des conséquences. Et 3 ans après, ce petit bonhomme te rappellera des conséquences. Mais, malgré cela, le Saint-Esprit restera à bord. Pourquoi ? De manière à ce que tu saches que Dieu ne t'aime pas moins malgré tes choix, mais parce qu'il t'aime, il reste à bord par son Esprit de manière à t'aider à faire de meilleurs choix. Des choix qui te permettent de le voir à l'œuvre, des choix qui te permettent de vivre dans la santé et dans la paix. Quand il est dit le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, il n'est pas dit qu'il est éternellement avec nous quand on fait ce qui est bien. Même quand on fait ce qui est mal, l'Esprit de Dieu est éternellement avec nous. Le Saint-Esprit reste à bord. Et je crois que ça va être le titre de mon message. Vous savez, le Saint-Esprit, il n'est pas comme les êtres humains. Les êtres humains, quand ils nous font quelque chose qu'on n'aime pas, quand ils nous font la tête ou quand ils disent quelque chose qu'on n'aime pas, on ne les regarde plus. Bien simple, on les évite. On ne leur téléphone plus. On ne va surtout pas manger avec eux. S'ils arrivent en face, on change de trottoir. Et si vraiment on leur en veut, quand on en a l'occasion, on va parler contre eux, histoire de bien les casser. Que toute la terre entière sache combien ils sont méchants. Attention, attention. L'Esprit de Dieu n'est pas comme cela. D'ailleurs, j'espère que les chrétiens ne font pas cela non plus. Mais l'Esprit de Dieu, certainement pas. Ne cherchons pas à rabaisser l'esprit de sainteté à un comportement humain sans Dieu. Il dit que celui qui est notre défenseur, l'Esprit de vérité, celui qui nous défend selon la vérité. Ça, c'est important, mes amis. Celui qui va faire prévaloir la vérité. Et la Bible nous dit qu'une des choses que nous devons maintenir, c'est l'amour pour la vérité. C'est cela qu'il faut maintenir. Eh bien, le Saint-Esprit est celui qui va nous aider. Il nous conduit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous forcera jamais à faire quelque chose. Quelquefois, les chrétiens disent « Ouais, mais tu comprends, j'ai senti une puissance et je n'ai pas pu m'empêcher de dire ça. Il y a l'Esprit de Dieu qui est venu sur moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. » On ne parle peut-être pas du même esprit alors. Parce que d'abord, la Bible nous dit qu'en tant qu'être humain, nous avons le contrôle sur notre être. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que nous avons le contrôle sur notre propre, sur nos émotions. Et qu'en plus, l'esprit de Dieu, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut des robots. Dieu n'a pas envie de passer l'éternité avec Robocop, avec Terminator. Dieu n'a pas envie de passer l'éternité avec avec des statues non plus. Dieu a envie de passer l'éternité avec des gens, des êtres humains qui portent sa ressemblance, qui sont à sa ressemblance, qui portent son image et qui l'aiment. Et vous imaginez vivre l'éternité avec quelqu'un qui nous force à faire ce que l'on veut, à faire ce qu'il veut, pardon. Non. Seulement, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons laissé le Saint-Esprit changer notre cœur, il met en nous son bon. Quelqu'un dit bon. Son bon vouloir en nous. Et il nous amène à vouloir ce qu'il veut en sachant que ce qu'il veut pour nous n'est que bon. Et malgré cela, bien qu'il ait mis en nous sa volonté, bien qu'il ait mis en nous son vouloir par son esprit, il nous laisse encore le choix de tourner les talons et d'aller dans l'autre direction avec l'esprit de Dieu qui habite en nous. C'est à ce point-là que nous sommes libres. C'est idiot de le faire, mais en tout cas nous sommes libres de le faire. Et quels que soient nos choix, l'Esprit de Dieu nous conduira toujours. C'est-à-dire que personne ne peut arriver trop bas où l'Esprit de Dieu dit « Ah, tu as atteint un palier là, où je ne peux pas descendre avec toi. Tu es trop bas là. » On n'arrivera jamais à ce stade-là. Aucun être humain qui veut invoquer le nom de Dieu, n'ira trop loin où l'Esprit dit « T'es dans un autre pays, là. T'es dans une autre frontière et j'ai pas le passeport. Alors, vas-y tout seul, sans moi. » La Bible dit éternellement. Ça parle de distance et ça parle de temps. Éternellement. L'Esprit de Dieu est avec nous. Alors, certains disent « Oh, bah c'est magnifique, alors, l'Esprit de Dieu est avec moi. » Il a mis en moi la volonté du Père, je suis libre malgré cela de faire ce que je veux, alors à fond la chair, je vais faire tout ce que je veux. Et cela, mes amis, ça s'appelle mettre les doigts dans une porte ouverte en plein courant d'air. Certains n'ont pas compris la blague. D'accord. Que se passe-t-il quand une porte est ouverte et qu'il y a un grand courant d'air? Elle va se refermer toute seule et... Ça fait mal. Et c'est un mauvais calcul de ne pas se laisser conduire dans la volonté du Père. Parce qu'il y a plein de choses bonnes que nous n'expérimenterons pas. En sachant que ce qui est bon n'est qualifié que par Dieu lui-même. Et ici, il nous est dit, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous est dit qu'il habite en nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que tu as reçu en acceptant Jésus dans ta vie, n'est pas quelqu'un qui est de passage. C'est pas quelqu'un qui rompt sa parole. C'est pas quelqu'un qui dit « Oh là là, t'arrêtes pas de faire des bêtises, toi. Tu fais tout l'inverse de ce que Dieu veut que tu fasses. Alors, puisque c'est comme ça, écoute, allez, tu vas de ton côté, moi je vais du mien, prends tes affaires, je prends les miennes. » Je vous laisse deviner avec quoi on reste. Non, vous n'avez pas envie de rire ce matin. Je sens que, ou alors mes blagues sont vraiment lourdes et je suis la seule à les comprendre, donc à en rire, ou alors vous faites de l'opposition. Il y a pas 36 trucs là. Si, je sens que... Et ben voilà, ben c'était un peu ça l'histoire. C'était exactement ce qu'il fallait voir. L'Esprit de Dieu n'est pas quelqu'un qui va dire « Tiens, t'as pris des kilos, alors je reste plus avec toi. T'as vu les rides que tu as prises là ? Hein ? Je t'explique là. Dis, t'as vu ça ?» C'est pas non plus l'Esprit de Dieu qui... Il est dit qu'il habite en nous, c'est-à-dire c'est pas l'Esprit de Dieu qui dit « Dis-moi, oh là, maintenant que t'es à la retraite, ton salaire a baissé, alors je peux plus faire ce que je veux, moi. Hein ?» Voilà, t'as compris ? Bien, tu as ton côté, moi je veux du mien. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Il est dit qu'il habite avec nous. C'est-à-dire, le mot, le verbe habiter, c'est le verbe qui n'existe pas en français, sauf depuis que je l'ai mis en français, c'est le verbe tabernacler. Il y en a qui se réveillent là, je sens qu'il y en a qui se réveillent. Hein ? Vous dites comment les mots arrivent-ils dans le vocabulaire français ? Ben voilà, il suffit que quelqu'un les invente. Et... L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est-à-dire qu'il vient habiter en nous comme il habitait dans le tabernacle. Quand le tabernacle était porté par les Hébreux au milieu du peuple hébreu. Tu sais, c'est énorme de savoir que l'Esprit de Dieu qui est en toi parle, il te parle, il te conduit, c'est-à-dire qu'il va communiquer avec toi de manière à ce que tu le comprennes. C'est-à-dire que c'est pas le Saint-Esprit qui est une personne d'ailleurs, ne communique pas avec un Chinois en chinois et avec un Français en chinois. Tu comprends ? L'Esprit de Dieu communique avec nous, il nous conduit, ça veut dire qu'on doit être capable d'identifier sa conduite, on doit être capable de reconnaître, parce que sinon c'est absurde. Il communique avec nous de manière, quand je dis avec nous, c'est pas simplement avec nous les Français ou francophones en général, c'est avec chacun de nous de manière à ce que nous puissions identifier sa conduite, sans nous tromper. Mais très souvent, ce qui nous empêche d'identifier sa conduite, c'est qu'on dit « j'ai pas besoin de toi ». Ou alors on prend des décisions sans l'avoir consulté. Avant de prendre des décisions, quelle que soit la dimension ou l'impact de cette décision, éduquons-nous à ne pas faire sans Dieu. C'est-à-dire que, pour commencer la journée, pourquoi ne pas dire « Seigneur, eh bien, montre-moi aujourd'hui, que veux-tu que je fasse ? Conduis-moi aujourd'hui, Seigneur. » Vous allez pour réaliser peut-être un achat important, eh bien, apprenez avec un achat moins important à dire « Seigneur, conduis-moi, est-ce que je dois l'acheter ou est-ce que je ne dois pas l'acheter ? Seigneur, j'amène mon enfant dans telle école ou je ne l'amène pas dans telle école ?» Mais il veut nous conduire, et rappelons-nous que parce qu'il nous conduit dans la vérité, alors nous sommes des candidats à expérimenter la vie que Jésus est venu nous donner, et à l'expérimenter en abondance. C'est-à-dire que plus quelqu'un se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, voilà, comme cela, il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, plus cette personne va expérimenter la vie en abondance. Donc on devrait voir des changements dans la vie de cette personne. On ne devrait pas retrouver cette personne 10 ans après et tout est au même niveau, rien n'a changé, même pas un tabouret. Parce que si l'Esprit de Dieu te conduit, et la Bible nous dit que Dieu est celui en qui se trouve la vie, le mouvement et l'être, si l'Esprit de Dieu te conduit, alors quelque chose va bouger dans ta vie. Si toi tu bouges, quelque chose bouge dans ta vie. Pour certains, c'est une coupe de cheveux. Bon, on commence là où on peut. Hein. Mais je vais vous dire, ça me fait drôle quand je vois des gens qui n'arrivent pas à changer de coupe de cheveux. Il y a toujours un truc avec moi. Il y a toujours quelque chose comme cela. On peut voir un homme qui a... j'ai pas vu jusqu'à la fin, mais je sais qui a gagné. Il y avait, c'était The Voice ? Il y avait l'Eurovision hier, hein ? Et il y avait The Voice. Hein, bah j'ai zappé, voilà. C'est simple, je voulais perdre aucun des deux. J'ai zappé. Vive la technologie, ça me plaît. Et je suis restée à la fin d'aucun des deux. Mais à un moment, il y avait Paul Naref. Bah, franchement, une autre coupe de cheveux, ce serait... Bah, c'est sa griffe, mais s'il n'y a que ta coupe de cheveux comme griffe, pose-toi des questions quand même. Pose-toi des questions. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je sais pas moi, imaginez une femme, et j'en avais entendu parler d'une, avec des couettes à la Fifi Brindacier, elle est plus de 70 ans. Je sais pas. Hein, le corps change, la mode change. Normalement, dans nos pensées, on devrait changer, quoi. C'est tout ça pour vous dire que l'Esprit de Dieu va nous faire bouger dans la vie. Encore une fois, je reprends le verset que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est que Dieu s'oppose aux orgueilleux, s'oppose à celui qui dit « je sais tout » ou « je n'ai pas besoin de Dieu ». En revanche, il va donner plus de grâce à celui qui dit « tu sais Seigneur, même arrivé à l'âge que j'ai, je ne sais pas encore comme je devrais savoir ». Il y en a un intelligent qui l'a chanté. Je ne sais pas s'il le pratiquait, mais... Non ? Vous ne voyez pas qui c'est ? Ça commence par un G. Ah ben voilà ! Hein ? Voilà. Je sais que je ne sais pas. Certains se demandent qui c'est Gaba. Bah oui, bah c'est ça. Eh ouais, c'est ça. Conflit générationnel. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Alors, la Pentecôte, c'est quoi ? Bah, la Pentecôte, c'est que quand la puissance de l'Esprit de Dieu qui est dans le cœur de chaque croyant a inonder la vie de quelqu'un, alors nous sommes plus sensibles à cette conduite. Nous sommes plus sensibles à la défense que nous accorde le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous sommes plus sensibles à la vérité. La Pentecôte, c'est encore plus. Encore plus. Alors vous dites, mais comment puis-je savoir si... l'Esprit de Dieu habite en moi? Ben, c'est très simple. Es-tu un fils de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu? Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as fait de Dieu ton Père quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu dis oui, mais moi je crois en Dieu. Alors, question plus précise. Te rappelles-tu du jour où tu as accepté Jésus dans ta vie? Si tu ne t'en rappelles pas, alors... Je comprends que tu puisses croire en un Dieu, peut-être même que tu aimes Jésus, dont tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais rencontré personnellement, mais l'expérience de la nouvelle naissance, c'est que Jésus, par sa puissance, transforme notre cœur. Et la Bible dit, c'est ce qui s'appelle « naître de nouveau ». Et pour celui qui est chrétien, il y a encore une autre expérience qui est l'expérience de la Pentecôte, c'est d'être rempli de la puissance de Dieu afin que le ministère du Saint-Esprit puisse s'exercer à travers nous pour bénir les autres. Et que ça se manifeste même par des actes de puissance comme d'imposer les mains aux malades, comme... d'entrer dans une pièce et il y a tellement la présence de Dieu qui est manifestée sur nous que l'atmosphère entière change dans la pièce. Ça vous est déjà arrivé, hein ? Bien sûr. Vous vous asseyez dans le bus et puis tout d'un coup la personne elle vous regarde et puis elle n'arrive pas à savoir ce qu'il y a de différent. Mais en tout cas, il y a une paix, il y a une présence qui rentre avec vous et ça c'est de Dieu. Alors, c'est vrai, nous célébrons la Pentecôte et vous dites, mais comment je peux savoir si j'ai reçu cette puissance ? Ah ben, c'est très simple, je vais vous lire ce verset. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus, avant de monter au ciel, disait, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous quand on a accepté Jésus, mais la puissance vient sur nous par une autre expérience, et il dit, et vous serez mes témoins, alors à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette puissance-là qui nous permet d'être les témoins de quelqu'un qui a reçu la vie et la vie en abondance. Dans Actes chapitre 2, il nous est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été baptisé, immergé, puisque c'est le verbe, hein, immergé par l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a un bruit qui s'entend. C'est exactement comme si je verse de l'eau dans un verre. L'autre fois, j'ai fait l'expérience devant quelqu'un. Si on verse de l'eau dans un verre, on lève un petit peu la bouteille d'eau, on va entendre clou, 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 clou. On entend du bruit, oui. Et puis à un moment, ça va déborder. Bon, bah, c'est un petit peu ça l'image. Que l'Esprit de Dieu qui vient sur quelqu'un, eh bien, à un moment, la personne va commencer à articuler des mots qu'elle n'a pas fabriqués intellectuellement, mais qui sortent directement dans son esprit. C'est ce que la Bible dit, parler en langue. Et quand quelqu'un parle en langue, eh bien, sa vie chrétienne va prendre une autre dimension. Parce que la Bible dit que quand nous parlons en langue, nous parlons des mystères à Dieu. Des mystères, mais ça ne veut pas dire que c'est inintelligible. Ça veut dire que c'est juste caché jusqu'à ce qu'on dise, Seigneur, révèle-moi ce que je viens de te dire là. Et il nous le révèle. Et c'est la vie de prière prend une autre dimension, la sensibilité aux choses spirituelles est beaucoup plus aiguisée. Et c'est une expérience qui est magnifique. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie et que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, alors je vais vous inviter à recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Ne partez pas d'ici sans cette expérience magnifique. Oui, c'est bien d'avoir accepté Jésus. L'Esprit de Dieu habite en vous et lorsque vous quittez cette terre, votre corps reste derrière vous, mais vous allez directement au ciel. Mais en attendant, vivre la vie sur terre, c'est vivre la vie dans la puissance du Saint-Esprit afin de bénéficier de cette vie en abondance. Nous, les chrétiens, nous avons vraiment tout un arsenal de disponibilité, tout un arsenal de bénédictions qui est à notre disposition. Donc, à nous d'en profiter. Voilà la Pentecôte. Aujourd'hui, tu peux vivre ta Pentecôte, tu peux être baptisé du Saint-Esprit au point de parler en d'autres langues. Et là, tu rejoindras ces millions de chrétiens sur la planète Terre et dans toutes les générations qui sont baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Ben, quel enthousiasme, dites donc, c'est extraordinaire ça. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Amen. Au point de parler en d'autres langues, hein? Alors, pour ceux qui ne le sont pas et qui, si vous souhaitez accepter Jésus-Christ dans votre vie, hein, comme Seigneur et Sauveur, et vous dites, ben moi je comprends, en tout cas que Jésus, ce n'est pas simplement un personnage historique, c'est que c'est le Fils de Dieu. Il est allé à la croix pour mes péchés. Grâce à ce qu'il a fait, il a versé son sang, moi je suis en règle avec Dieu. Aujourd'hui, je suis en règle avec Dieu. Dieu est mon Père, je peux l'approcher, je peux me laisser aimer par lui. Mais maintenant que vous avez accepté Jésus, alors c'est le baptême du Saint-Esprit. Que vous souhaitiez accepter Jésus ou que vous souhaitiez être baptisé du Saint-Esprit, eh bien, je vais vous inviter à me rejoindre devant. Nous allons prier pour vous et puis vous laisser vivre votre Pentecôte.